Vous écoutez, on lit pour vous.
Skawanuti, la rivière dont on a oublié le nom. Un texte de Caroline Montpetit, paru le 30 octobre 2024 dans Le Devoir. L'église de la Visitation, sur le bord de la rivière des Prairies, est connue comme étant la plus ancienne église de Montréal encore debout. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il y avait eu avant, près de ce site, le dernier village autochtone de l'île, érigé entre 1696 et 1721. C'est cette mémoire autochtone des lieux dont l'artiste Jocelyn Sioui, chercheur d'histoire autoproclamé, a tenté de recoller les morceaux avec le parcours audio Skawanuti, qui porte l'ancien nom autochtone de la rivière qu'on appelle Rivière des Prairies. Aux abords de ce cours d'eau, posté près du Sentier des Messagers, autrefois appelé le Sentier des Sauvages, il suit en pensée un groupe de femmes qui marchaient, les bras chargés de victuailles et d'herbes médicinales, produits de leur récolte, qu'elles allaient vendre une dizaine de kilomètres plus au sud, au marché de Ville-Marie. C'est probablement un très très vieux sentier, dit-il. Avant la colonisation, il y avait beaucoup de sentiers sur l'île de Montréal. Le Mont-Royal était plein de sentiers. Autour de l'ancien fort Laurette était donc alors regroupée une communauté autochtone de 32 maisons longues et de quelques 400 habitants des nations Mohawk, Wendate, Anishinaabe et Nipissing. Après avoir vécu à la prairie, ils avaient été déplacés une première fois au sud du Mont-Royal. Puis, les Sulpiciens ont évoqué la nécessité d'éloigner les Autochtones de l'alcool pour justifier leur déménagement au bord de la rivière des Prairies. Ça a été le prétexte qui a été utilisé, dit Jocelyn Sioui, arguant que c'est plutôt la valeur foncière des terres défrichées, habitées par les Autochtones, qui a justifié ce déménagement. Au sujet de l'alcool, il cite une correspondance historique pour démontrer que les Sulpiciens savaient très bien que l'alcool causait des problèmes, mais qu'il n'était pas question d'arrêter d'en vendre, car cela signifierait l'effondrement des finances de la colonie. D'ailleurs, quand les Autochtones ont été de nouveau déplacés, cette fois à Dansik vers Kanesatake, dit-il, les marchands d'alcool ont suivi. Les Autochtones qui vivaient à Ansik étaient très catholiques. Ils avaient accès à une chapelle par une porte des fortifications du fort, raconte-t-il. Mais ils continuaient de vivre selon leurs coutumes ancestrales, cultivaient la courge, le maïs et les haricots. Il y avait des terres cultivables de la rivière jusqu'à l'actuel boulevard métropolitain, de l'actuelle avenue Papineau à la rue Saint-Hubert, quelque chose comme 7 kilomètres carrés de terrain, dit-il. Des fouilles archéologiques menées dans le secteur, principalement autour du fort Laurette, n'auraient documenté à ce jour qu'une infime portion du village autochtone. Un cimetière serait notamment enfoui sous l'église. Le chemin des Perches Chaudes. Jocelyn Sioui ne recule pas devant la tâche à accomplir pour achever, voire contredire l'histoire officielle, quitte à se corriger en cours de route. L'idée de ce parcours a germé alors qu'il se baladait au bord de l'eau à Ansik, où il habite depuis 2 ans, tout près du site de l'ancien fort Laurette. En revenant, j'ai remarqué que derrière le monument, il y avait une autre plaque qui racontait l'histoire de la noyade du père Nicolas Vielle et son disciple, Ohaïtsik. C'est ce mystérieux Ohaïtsik, que certains ont identifié comme Wendat et d'autres comme français, qui a donné son nom à l'arrondissement. Après avoir longtemps pensé qu'Ohaïtsik signifiait frétillant et agile, Jocelyn Sioui a compris, en feuilletant un lexique du père jésuite Pierre-Philippe Potier et suivant les conseils de l'anthropologue Alexandre Lapointe, que le mot signifie plutôt perche chaude, une espèce de poisson particulièrement frétillante et agile. Aussi, propose-t-il un dessin de Perchaude à chaque pause de son parcours dont Luzio Altobelli a fait les arrangements sonores. Enquêteur de l'histoire, historien amateur, autodidacte, Jocelyn Sioui se dit aussi fauteur de troubles. Il n'hésite pas à relancer le débat sur l'identité d'Oaïtzik en appelant de l'anthropologue Serge Bouchard. Celui-ci a en effet, de son vivant, semé le doute sur la francité du jeune disciple. L'histoire de Montréal est pleine de rendez-vous manqués de ce type, écrivait Bouchard en 2014. Nous avons deux quartiers dont les noms font honneur aux grandes époques amérindiennes, Hochelaga et Ansik, deux mots de la famille iroquoienne. Mais il fallait ajouter Maisonneuve au premier et franciser le second pour cacher toujours un peu plus cet Indien que nous ne saurions voir. Reste que Jocelyn Sioui sait combien l'histoire autochtone, fruit de la tradition orale, est devenue invisible au fil des siècles. Il raconte par exemple que Skawenoti, le nom de la rivière vraisemblablement fréquentée depuis des millénaires, signifie « la rivière derrière l'île ». Mais en 1610, le sieur François des Prairies aborde par erreur l'île de Montréal par la rivière des Prairies, plutôt qu'au sud par le fleuve. Il découvre du coup que Montréal est une île et donne son nom à la rivière. Encore aujourd'hui, c'est aberrant qu'il n'y ait même pas une plaque qui indique qu'il y avait ici un village autochtone, poursuit Jocelyn Sioui. Alors moi, je raconte l'histoire. Cette histoire fait également partie de son spectacle « Frétillant et agile » qui prend l'affiche cette semaine à l'espace Le Vrai Monde dans Ansik-Cartierville. C'était « Skawanoti, la rivière dont on a oublié le nom », un texte de Caroline Monpetit paru le 30 octobre 2024 dans Le Devoir.
Elon Musk devrait lire ce livre au plus vite. Un texte d'Alexandre Sirois, paru le 3 novembre 2024 dans La Presse. Parmi les récits les plus saisissants offerts par l'historien Yuval Noah Harari dans son plus récent essai pour expliquer les dangers de la révolution technologique en cours, il y a une expérience de pensée plutôt cocasse, mais éclairante. Imaginez, écrit-il, que le directeur d'une usine de trombone achète un ordinateur super intelligent à qui il demande de produire le plus grand nombre de trombones possible. Pour atteindre cet objectif, l'ordinateur de l'usine de trombone finit par conquérir l'ensemble de la planète Terre, tue tous les humains, envoie des expéditions, s'empare de nouvelles planètes et utilise les immenses quantités de ressources ainsi acquises pour remplir la galaxie d'usines de trombones. C'est le philosophe britannique Nick Bostrom qui a imaginé cette histoire pour montrer à quel point il est crucial d'aligner les ordinateurs et leurs algorithmes avec nos objectifs. Or, ce que Yuval Noah Harari démontre dans Nexus, c'est que les dérapages sont déjà nombreux. Un exemple flagrant. Ayant comme objectif de maximiser l'engagement des utilisateurs, les algorithmes de divers réseaux sociaux radicalisent nos sociétés. Par ailleurs, même si des objectifs nobles sont fixés en amont, les ordinateurs sont, grâce au développement de l'intelligence artificielle, susceptibles d'adopter des stratégies qui ne viendraient jamais à l'idée d'aucun humain et que nous ne sommes donc pas en mesure de prévoir ni de prévenir. À ce sujet, Le récit de la victoire d'un ordinateur contre le champion du monde du jeu de Go en 2016 est fascinant. Lors de cet événement, l'intelligence artificielle a eu des idées qui avaient échappé aux plus brillants joueurs pendant des millénaires. La nature de la révolution de l'information en cours est inédite, souligne ainsi Yuval Noah Harari, qui, avec le talent de vulgarisateur qu'on lui connaît, nous fait revisiter les précédentes pour le démontrer. Les algorithmes des réseaux sociaux sont fondamentalement différents des presses à imprimer et des postes de radio, dit-il. Ils prennent par eux-mêmes des décisions actives et lourdes de conséquences. L'historien qualifie par conséquent de naïfs ou hypocrites les arguments des responsables des géants du numérique qui prétextent que leurs réseaux sont juste des plateformes et qu'ils font simplement ce que leurs clients veulent et ce que les électeurs autorisent. Son constat, c'est que l'avènement d'une intelligence autre et insondable met en péril la démocratie. Les Elon Musk et Mark Zuckerberg de ce monde, ainsi que ceux qui travaillent pour tous les géants du numérique, auraient tout avantage à se plonger dans ce livre au plus vite et à en tirer les leçons qui s'imposent. Je précise que Yuval Noah Harari n'est pas exagérément pessimiste dans Nexus, ni défaitiste. Les perspectives sont inquiétantes, mais l'histoire démontre que l'avenir est déterminé par les choix faits par les êtres humains. Selon lui, si les démocraties finissent bel et bien par s'effondrer, cela ne sera probablement pas le fruit d'une quelconque inéluctabilité technologique, mais de l'incapacité des humains à réglementer à bon escient les nouvelles technologies. C'est pourquoi aborder la question de l'intelligence artificielle dans nos débats politiques est d'une urgence absolue, selon lui. Pas besoin de s'intéresser à la technologie pour en être persuadé, insiste-t-il. Il suffit de se soucier de questions aussi cruciales que la répartition équitable des richesses ou la survie de la démocratie. Rien de moins. Extrait. Le but de ce livre est d'offrir une perspective historique plus précise sur la révolution de l'intelligence artificielle. Celle-ci n'en est encore qu'à ses balbutiements, et chacun sait combien il est difficile d'appréhender en temps réel de tels bouleversements. Il est encore compliqué, aujourd'hui, d'évaluer la signification des événements qui ont eu lieu dans les années 2010, comme la victoire d'AlphaGo ou le rôle joué par Facebook dans la campagne anti-Rohingya. Le sens des événements du début des années 2020 est encore plus obscur. Pourtant, en élargissant nos horizons pour examiner la manière dont les réseaux d'information se sont développés au fil des millénaires, il est possible, je crois, de comprendre un peu mieux ce que nous sommes en train de traverser. Qui est Yuval Noah Harari? Né en 1976 à Haïfa, en Israël, titulaire d'un doctorat en histoire de l'Université d'Oxford en 2002, enseignant au département d'histoire de l'Université hébraïque de Jérusalem et chercheur au Centre pour l'étude des risques existentiels de l'Université de Cambridge. Il a publié son œuvre phare, Sapiens, Une brève histoire de l'humanité, en 2014. Ses essais, traduits dans 65 langues, se sont vendus à plus de 45 millions d'exemplaires dans le monde jusqu'ici. C'était Elon Musk devrait lire ce livre au plus vite. Un texte d'Alexandre Sirois, paru le 3 novembre 2024 dans La Presse.
$9 millions de tonnes d'aliments à la poubelle par an, un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 22 octobre 2024 dans La Presse. On en parle plus que jamais, mais on continue de jeter à la poubelle des aliments parfaitement comestibles. Un rapport publié en octobre 2024 évalue que pratiquement 9 millions de tonnes d'aliments sont gaspillées chaque année au Canada. Si l'inflation a convaincu plus d'un consommateur de l'importance d'utiliser intégralement ces aliments et d'éviter les pertes dans la cuisine, certaines pratiques ont la couenne dure et on continue de jeter des produits tout à fait comestibles du producteur jusqu'au consommateur. Selon l'organisme de récupération alimentaire Deuxième Récolte, Second Harvest, 41% de ce gaspillage est évitable et il représente une valeur de 58 milliards de dollars au Canada. Ce rapport, l'évitable crise du gaspillage alimentaire, évalue qu'on jette pratiquement 9 millions de tonnes d'aliments par année au pays. En valeur, le coût du gaspillage alimentaire équivaut à 12% de la facture d'épicerie, calcule l'organisme ontarien. Deux facteurs contribuent grandement au gaspillage alimentaire. Les dates de péremption qui nous font jeter des produits totalement sains et les aléas climatiques qui causent des pertes dans les champs. La date de péremption. Êtes-vous de ceux qui choisissent minutieusement votre pinte de lait à l'épicerie pour mettre la main sur celle dont la date de péremption est la plus éloignée? Si oui, vous n'êtes pas seul. Le rapport cite cette pratique pour illustrer l'impact des dates de péremption et de fraîcheur sur le gaspillage alimentaire. Elle tient pour les produits laitiers, mais aussi pour de nombreux aliments. Au Canada, la loi n'oblige pas les fabricants de produits dont la durée de vie excède 90 jours à mettre une date de péremption sur les emballages. Plusieurs le font tout de même. Et la mention « meilleur avant » garantit la fraîcheur et non la salubrité. Cette date de fraîcheur est souvent mal comprise par les consommateurs. Elle peut induire les consommateurs en erreur et les mener à jeter des produits parfaits comme les légumes en conserve, le riz, les pâtes, ainsi que des fruits et légumes, peut-on lire dans le rapport sur le gaspillage alimentaire. Le groupe Deuxième Récolte estime que ces mentions sont responsables de 23% de la nourriture gaspillée au Canada, de la transformation à l'achat. Le cas du cantaloupe. Les récentes années ont prouvé que les extrêmes climatiques ont un grand impact sur les récoltes, pluies intenses, épisodes de canicule, grêle. Des producteurs se retrouvent parfois avec des fruits et légumes qui ne respectent pas les standards esthétiques des clients, et cela à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement. Le marché des aliments imparfaits est loin d'être florissant, indique-t-on dans le rapport. Les consommateurs ne considèrent toujours pas les produits d'apparence imparfaite comme étant de qualité égale à celle des produits irréprochables. Exemple éloquent de gaspillage absurde amené par ce groupe, ces cantaloupes qui seront jetés s'ils ne satisfont pas les critères minimaux de taille, alors que les petits cantaloupes sont tout à fait comestibles. Les standards sont fixés à la fois au niveau national et international et comprennent des paramètres tels que la texture, la couleur, la taille, l'état, etc. Si le processus de classement est cohérent, les spécifications fixées par les détaillants varient considérablement d'un magasin à l'autre, explique Deuxième Récolte, qui déplore que des commerces aillent souvent au-delà des réglementations gouvernementales dans leurs pratiques d'achat afin de présenter de beaux produits. L'organisme, dont la spécialité est de récupérer les aliments pour les redistribuer à des OBNL, estime qu'il manque encore de mécanismes pour récolter les aliments imparfaits. Pour l'industrie alimentaire, c'est une occasion ratée puisque l'élimination de 1 % des coûts liés au gaspillage alimentaire améliore les performances financières des entreprises. L'équivalent d'une augmentation de 4 % de leurs revenus, précise le groupe dans un courriel, puisque la réduction du gaspillage alimentaire permet aux entreprises de ne pas soutenir des coûts liés à la production, à la manipulation, au stockage, au transport et à l'élimination des produits qui ne sont pas vendus. Deuxième Récolte a construit son rapport à partir des données de Statistique Canada et d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, notamment, ainsi que d'après une enquête nationale menée auprès de plus de 800 personnes de l'industrie alimentaire et d'organisations caritatives, en plus d'entrevues avec 83 experts du milieu. C'était 9 millions de tonnes d'aliments à la poubelle par an, un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 22 octobre 2024 dans la presse.
Quand les Français larguent du coup pour fait que. Un texte de Marie-Ève Maurras paru le 8 mars 2024 dans la presse. Fait que. Qu'est-ce qui fait que des Français qui s'établissent chez nous laissent tomber leur du coup caractéristique pour adopter le fait que si cher aux Québécois? T'sais que certains absorbent l'accent d'ici et d'autres pas. C'est ce que tentent de comprendre deux chercheuses de l'Université de Montréal. Quand elle est arrivée dans la métropole il y a 7 ans, la Française Nadège Fournier a constaté avec étonnement que ses compatriotes installés ici avaient parfois un tout autre accent que le sien. Étudiante en linguistique, elle a fait de sa question un projet de doctorat pour savoir dans quelle mesure les Français installés à Montréal adoptaient des éléments du français québécois. Pour y répondre, elle a fait équipe avec Julie Auger, professeure au département de linguistique et de traduction de l'Université de Montréal. Elles ont interrogé sur plusieurs années 35 Français, hommes et femmes, tantôt fraîchement débarqués à Montréal, tantôt ici depuis plus de 8 ans. Déjà, un constat se dégage. Il est très fréquent que le « du coup » soit remplacé par « fac » ou « faque ». En France, beaucoup de personnes critiquent les plus jeunes, en particulier qui disent « du coup » tous les trois mots. Les personnes qui sont ici acquièrent le « faque ». Elles ne le prononcent pas tout à fait comme nous. Souvent, elles disent « faque ». Mais on voit que c'est quelque chose qui s'intègre dans leur parler, dit Mme Auger. Autre observation, plus elles sont au Québec depuis longtemps, plus le « voilà » tend à être remplacé par « c'est ça ». La professeure Auger constate que des Français entre eux disent parfois que pour s'intégrer au Québec, mieux vaut ne pas garder sa façon de parler. Il se dit que si vous parlez toujours à la française, avec la bouche en cul de poule, comme on dit, vous risquez d'être laissé de côté, dit Julie Auger. Certains participants ont confié qu'ils aimeraient bien parler comme les Québécois, mais craignent que ce ne soit perçu comme une moquerie, dit Nadège Fournier. En général, les participants disent que l'accent et les mots du français québécois ne les dérangent pas, mais une bonne partie n'aime pas la morphosyntaxe. Ils trouvent qu'il y a des écarts à la norme, à l'oral ou dans les articles journalistiques. On me donne des exemples comme « j'ai tombé » ou « je vais » au lieu de « je vais », souligne Nadège Fournier. Madame Fournier ajoute qu'en sa qualité de linguiste, elle ne juge pas. Des participants ont également dit qu'ils corrigent leurs enfants quand ils commettent de telles fautes, mais mettent des tabernacles dans les entrevues, dit Nadège Fournier en riant. À cet égard, Julie Auger explique que les études en sociolinguistique montrent que les gens ont avantage à parler comme les personnes qui les entourent. On le fait de façon inconsciente. On le fait parce qu'on veut établir des liens, bâtir quelque chose ensemble, explique-t-elle. Toi et moi, de la France au Québec. Les participants qui ont été interrogés viennent de Paris, mais aussi du Nord et de l'Ouest de la France, des régions où le parler français partage des traits avec le français québécois. Moi, toi, ça existe en Normandie. On peut dire « croire » au lieu de « croire ». Dire « aster » pour « maintenant », c'est quelque chose qui a existé partout en France, mais qui n'existe plus en bon français. C'est disparu à Paris, mais ça se maintient dans l'Ouest et le Nord de la France, nous dit Julie Auger. Dans le cadre de cette étude, on cherchera donc à savoir si les personnes de ces régions sont plus enclines à adopter du vocabulaire ou des tournures de phrases québécoises, contrairement à des Parisiens, par exemple, qui pourraient être plus résistants au fait de modifier leur français. Prennent-ils d'autres plis d'ici? Julie Auger fait remarquer que les Français utilisent très peu l'inversion quand ils posent des questions. Ils diront « Tu viens me voir demain ?» plutôt que « Viens-tu me voir demain ?» Au Québec, c'est une construction qu'on utilise beaucoup. Ce n'est pas familier ni non standard. En fait, les Français trouvent qu'on parle bien quand on dit ça, dit Madame Auger. L'acquisition d'une autre variété de sa langue varie en fonction du parcours individuel de chacun, avec qui on partage sa vie, avec qui on travaille ou pas. Il y a énormément de facteurs qui varient, dit Julie Auger. Nadège Fournier est un bon exemple de l'influence de l'entourage. Pendant 4 ans, elle a partagé sa vie avec un beauceron. À ce moment-là, j'ai adopté plus d'éléments québécois, dit-elle. Elle s'entendait alors dire « tu » ou « en tout cas » en début de phrase, à adopter le « moi et tout » ou le « mais que je fasse ça ». Mais elle constate que depuis 3 ans, sa façon de parler a changé à nouveau. « C'est dynamique », dit-elle. En savoir plus, selon le consulat général de France à Québec, il y a 65 550 Français vivant à Montréal. C'était « Quand les Français larguent du coup pour faque », un texte de Marie-Ève Maurras paru le 8 mars 2024 dans la presse.